Bonjour à tous, bienvenue sur Expresso, les interviews histoire de Timeline en partenariat avec le Salon du Livre d'Histoire de Versailles. Je suis vraiment ravi de recevoir aujourd'hui Didier Rickner pour son livre formidable, hein, Notre-Dame, une affaire d'État. Et là, je peux vous dire qu'on va soulever des lièvres. Voilà, j'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a de quoi dire. Bonjour Didier.
Bonjour.
Je suis ravi.
Ben moi aussi,
ravi
merci.
De vous recevoir. Vous êtes le fondateur et directeur de la Tribune de l'Art. Tout le monde vous connaît, je pense. Avant de plonger vraiment dans le livre, en tant que défenseur du patrimoine en général, comment est-ce que vous évaluez, attention à la question, l'efficacité des politiques de préservation en France? Vous avez 3 heures.
2 minutes, 4 sur 20. 3 ouais. sur 20 peut-être
3 sur 20.
Non, ça dépend lesquels en fait. Hein. Il y a plusieurs types de... Il y a au niveau de l'État, là c'est le ministère de la Culture, je dirais là c'est
le ministère de la Culture.
Le ministère de la Culture. Et je dis souvent s'il y avait un ministère de la Culture pour protéger le patrimoine, ça serait bien.
Ouais.
Bon, j'exagère un peu, bien sûr, il y a des gens qui travaillent très bien au ministère de la Culture et ce n'est pas eux que j'attaque en général, c'est
non.
surtout au niveau des décisions. Et malheureusement, il y a une espèce d'abandon du patrimoine, enfin une espèce de laisser-faire. C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans le cas de Notre-Dame, on en reviendra certainement. Mais malheureusement, il y a eu des sursauts. Je pense que Stéphane Bern, à qui il faut vraiment rendre hommage, a quand même créé un électrochoc. L'incendie de Notre-Dame a été aussi un électrochoc qui fait que ça va un petit peu mieux quand même, il faut le dire. Hein. En termes de budget, les budgets sont un peu mieux. Maintenant, il faut que ça reste dans le temps. En revanche, en termes de protection du patrimoine, alors il y a une annonce récente du président de la République sur les églises, justement, les églises qu'on protégera mieux, etc. Pourquoi pas ? Mais il y a beaucoup de lois qui ont été récemment défaites, détricotées, alors qu'on avait même si ça ne marchait pas de manière extraordinaire tout le temps, on avait des lois de protection du patrimoine qui font l'admiration de tout le monde. Dans les pays étrangers, souvent on prend exemple sur la loi française, et ces derniers temps, ça allait un peu moins bien.
Bon, j'ai adoré votre livre, je ne le dis pas toujours, mais il est vraiment incroyable, formidable. Pourquoi vous l'avez écrit ?
Pour vous faire plaisir,
peut-être. Ça, c'est gentil. Et ben, ça a marché.
Pourquoi je l'ai écrit ? En fait, je l'ai écrit parce que d'abord, le soir de l'incendie de Notre-Dame, je le raconte un petit peu, j'étais quand même bouleversé comme tout le monde et j'étais un peu sur... je suis allé sur place. Et je devais le publier en fait un an après l'incendie. Et puis un an après l'incendie, il y avait une épidémie que vous connaissez et qui les éditeurs sont devenus un peu frileux, c'est logique, hein, ils ne savaient pas ce que ça allait devenir, les ventes de livres, et donc le livre a été annulé. Finalement, je l'ai repris, je l'ai complété, et donc ça va jusqu'à aujourd'hui, pratiquement aujourd'hui. Je l'ai terminé, il est publié il y a un mois et demi, il y a 2 mois, enfin jusqu'au dernier moment, on a enrichi le livre. Malheureusement, ça va jusqu'à la mort du général Georges Lain, que j'ai pu inclure dans le livre. Ça parle, c'est en fait, je voulais parler de cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ouais.
En fait. Donc c'est une enquête. Finalement, au départ, ça devait être jusqu'à l'incendie. Et puis un an après l'incendie, donc il y avait beaucoup d'inquiétudes. Un an après l'incendie, il y a moins d'inquiétudes maintenant, il faut être clair. C'est ce que je dis dans le livre. Mais il y en a encore quelques-unes. Et en tout cas, on peut se poser la question de savoir pourquoi tout n'a pas été fait au départ pour protéger Notre-Dame et pourquoi depuis, si certaines leçons ont été tirées, elles ne l'ont pas été toutes. Et il y a encore des points qui posent problème. Alors la bonne chose, c'est que je suis rentré, j'ai eu la chance de rentrer 3 fois dans Notre-Dame depuis l'incendie, et c'est que les travaux se déroulent très bien. Les travaux sont bien faits, objectivement ça fonctionne, et on va avoir Notre-Dame restaurée, ce qu'on n'aurait jamais eu avant. Hein. Sauf l'extérieur, alors l'extérieur si, le toit évidemment et la flèche qui vont être refaits, même si c'est une restauration, hein, c'est pas une rénovation, c'est pas une reconstruction. C'est des parties d'un monument protégé qu'on va restituer. Mmh. Mais c'est vrai que l'extérieur, en revanche, les arcs-boutants, etc., ne seront pas encore restaurés, donc ça va prendre encore un peu de temps après. Mais c'est vrai qu'actuellement, ça se déroule plutôt bien, avec d'autres inquiétudes, surtout sur les fouilles archéologiques, sur les abords de Notre-Dame, sujets que j'aborde.
Mmh.
Et le musée de l'œuvre de Notre-Dame, dont j'espère qu'il est peut-être bien parti là maintenant. On était un peu inquiet il y a quelques mois, et là... Il y a une mission actuellement qui est menée par Charles Persona, qui est quelqu'un de très bien et qui va rendre ses conclusions à la fin de l'année. Et il faut espérer qu'on aura un vrai musée de l'œuvre.
Alors on est à Versailles, il faut savoir aussi que bien sûr c'est l'un des patrimoines les plus, on va dire, les plus protégés.
Alors Versailles, oui. Alors
là,
Versailles,
le...
vous voulez dire ?
Oui, à Versailles.
Alors
ouais.
C'est à la fois un des plus protégés parce que, par exemple, contre le feu,
c'est
Versailles qui a sauvé Paris en partie.
C'est
parce qu'on a fait venir les bras articulés qui avaient été commandés pour le château de Versailles. Les mieux protégés, je dirais pas ça, parce qu'il y a quand même un énorme scandale à Versailles, qui est le massacre de l'aile où on a fait la nouvelle entrée.
Ah
un massacre
oui.
qui n'a eu que très peu d'écho dans la presse, à part Adrien Goetz, Alexandre Gadier et moi-même. Personne n'a, oui, n'a dit que c'était un scandale. Il suffit d'aller rentrer dans cette espèce de hall qui ne sert strictement à rien, qui a détruit des décors, etc., pour voir que Versailles n'est pas si bien protégé que ça. Non.
Comment on peut imaginer que Notre-Dame, patrimoine mondial, ait pu être si peu protégée ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ?
C'est la vraie question, et c'est une question qui n'aura, je pense, je le crains, jamais de réponse, puisqu'il n'y a pas d'enquête interne au sein du ministère de la Culture, au sein de l'État. Alors que si...
C'est un scandale.
Ce que je dis, c'est que ce n'est pas un incendie criminel.
Plein de personnes
m'ont posé la question, là, c'est vraiment la question. Mais ça ne peut pas brûler comme ça. Si, ça peut brûler comme ça, il y a plein d'exemples. Ça ne s'explique pas. Si, ça s'explique. J'ai travaillé avec des pompiers, avec des architectes du patrimoine, ça s'explique parfaitement. L'incendie, ça arrive. En revanche, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu.
Ouais.
Et qui, ensuite, les responsabilités existent parce qu'il n'y avait pas les bonnes personnes pour garder Notre-Dame. Y avait pas, les pompiers ont mis du temps à arriver. Les bras articulés encore plus longtemps. Tout cela fait que... on s'est trompé au départ, hein, tout ça on le connaît bien, largement, hein, je ne révélerai rien quand je dis qu'on a cru que c'était d'abord la sacristie, on a perdu une demi-heure à trois quarts d'heure avant de savoir que le feu était vraiment là. Trois quarts d'heure, c'est fini. En trois quarts d'heure, le feu se développe et on ne peut plus rien faire. Donc voilà, donc, tout ça, ces responsabilités-là, on ne les connaîtra pas. Mmh. Je pense qu'on ne les connaîtra jamais parce qu'il n'y a même pas d'enquête interne. Alors peut-être que le Sénat, ou ce que m'a dit un sénateur, Pierre Ouzoulias, un sénateur qui est très actif dans la défense du patrimoine, il m'a dit on ne peut pas faire d'enquête parlementaire tant qu'il y a une enquête judiciaire. C'est possible. En tout cas, il m'a dit qu'ils en demanderaient une après. Donc quand l'enquête judiciaire sera terminée, j'espère qu'il y aura au moins une enquête parlementaire, parce que l'enquête interne du ministère de la Culture, elle n'aura jamais lieu.
Vous pouvez nous parler du dispositif des cloches, justement, vous en parlez, est-ce que c'est ça qui aurait pu mettre le feu
Je ne peux pas dire ce qui a mis le feu, parce que je ne suis pas policier, j'ai pas été fouillé dans les... Mais en revanche, j'ai beaucoup interrogé, j'ai beaucoup regardé, j'ai travaillé en sous-main avec un pompier qui m'a aidé, mais qui ne pouvait pas, spécialiste de ce type d'incendie, qui ne pouvait pas apparaître, parce qu'il n'a pas trop le droit de faire ça, et... Il y a plusieurs hypothèses, deux, trois hypothèses. Une des hypothèses, probablement une des plus crédibles, c'est ces cloches qui ont été installées à la croisée du transept de manière pas du tout réglementaire, autorisée par la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, mais ils avaient dit qu'il faut l'enlever, etc. Ça n'a jamais été enlevé. Et une des révélations que je fais dans le livre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà connues ou que j'ai déjà publiées sur la Tribune de l'Art, mais il y a des choses qui n'étaient pas connues. Une des révélations que je fais, et c'est ce pompier qui m'a alerté. En fait, toutes les messes avant de Notre-Dame sont retransmises, et la veille on entend un truc bizarre, c'est qu'il y a quelque chose qui les cloches ne sonnent pas, et on voit le prêtre qui, c'est au moment de l'élévation, il comprend pas, et là il s'est peut-être passé quelque chose, c'est ce que m'a dit le pompier, il y a pu y avoir quelque chose, c'est tout à fait inhabituel,
positif en fait,
qui aurait voilà, bloqué et qui aurait pu le lendemain pourquoi pas, on ne sait pas, ce sont des hypothèses, il y a d'autres hypothèses que j'ai mis dans ce livre. Maintenant, peut-être qu'on le saura, peut-être qu'on ne le saura pas. C'est vrai que comme il y a des responsabilités réelles sur ce qui a pu se passer, sur ce qu'on n'a pas fait les gens, et comme ce sont les mêmes qui sont en charge, enfin c'est l'État qui est en charge de l'enquête, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment... Je suis tout sauf complotiste. Hein, les complotistes se sont déchaînés là-dessus pour dire qu'il y avait que c'était un incendie criminel, etc. Pas du tout. Il y a eu de la négligence. Et la négligence, on n'a pas très envie de la montrer. Alors, est-ce qu'on saura exactement ce qui s'est passé ? Je ne sais pas.
Question bête et pour évacuer totalement le complotisme, même si ça avait été un attentat, est-ce que l'État en aurait parlé ? Est-ce qu'il aurait pu le cacher en disant c'est trop grave ?
Non, mais non, bien entendu, on l'aurait su, évidemment. Mais bien sûr, les pompiers l'auraient su, ça aurait filtré, bien entendu.
Ça aurait filtré.
Okay. Absolument personne.
Donc, on évacue, c'est très bien.
Non, c'est pas un attentat.
Non, non.
Et tant mieux, finalement. Enfin, tant mieux, oui, tant mieux que ce soit un attentat.
Ouais.
Et de toute façon, ça aurait été revendiqué, un attentat. Enfin, Non, c'est pas un attentat.
C'est un ensemble de facteurs qui ont oui. merdé, il n'y a pas d'autre mot.
Oui, oui.
Tout a merdé. Les pompiers dans les bouchons parisiens. Alors ici, vous ne savez pas ce que c'est, mais à Paris, c'est épouvantable.
Alors remarquons
c'est
quand même,
incroyable.
Je suis le premier à critiquer Madame Hidalgo et sa politique désastreuse. J'avais même fait un livre l'année dernière sur ça, que vous pouvez également acheter ici. Je fais ma publicité, hein, c'est normal.
Vous avez raison.
Mais je n'ai pas pu... alors si après avoir terminé le bouquin, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit effectivement qu'il avait vu les pompiers coincés dans les... Ouais. C'était pas très évident. Dans le film de Jean-Jacques Hano, on voit ça.
Ils sont dedans.
Donc je suppose qu'il a dû avoir des des témoignages directs. Moi, je n'ai pas réussi à voir ça. J'en parle là en disant que j'en suis pas sûr. Enfin,
mais tout le reste. Il suffit de passer à côté de Notre-Dame à 18h le soir.
C'est évident que. C'est évident. Maintenant, bon, oui, il y a tout ça, plus le fait qu'il n'y avait pas effectivement les bras articulés, ouais, plus le fait que les pompiers sont arrivés.
C'est un ensemble de choses.
Mais comme on ne sait pas la cause, mais la cause, il y a certainement une cause, peut-être les cloches. Peut-être, et ça je ne peux pas le dire, sinon je vais me faire fusiller par l'architecte en chef des monuments historiques qui était en poste à l'époque et dont je dis que moi ça ne me choque pas qu'il soit là et qu'il fait du bon travail, même si plusieurs de mes amis proches ou des défenseurs du patrimoine prouvent qu'il n'aurait pas dû rester. C'est Philippe Villeneuve. Philippe Villeneuve dit, attends, il n'y a aucune preuve que c'est le chantier, il refuse qu'on dise que, c'est le chantier. Mais même si c'était le chantier, ce n'est pas forcément de la faute. Parce qu'il y a des réglementations, je le dis aussi dans le livre, qui ne sont pas obligatoires et qui devraient l'être. C'est peut-être le chantier, peut-être pas le chantier, peut-être que c'est les cloches, peut-être que c'est les deux. On ne sait pas exactement. Donc je donne toutes les hypothèses. Et c'est vrai que, est-ce qu'on saura un jour, je ne sais pas.
Au-delà du feu, ce qui est incroyable, c'est tout ce qui est... Il n'y a pas de contrôle, il n'y a jamais de contrôle dans ce pays, c'est ça qui est incroyable. C'est que normalement, dans ces endroits-là, il y a deux pompiers obligatoirement, et puis il n'y a plus de pompiers, on confie ça à des boîtes privées, qui mettent deux personnes, puis finalement qu'en prennent qu'une seule... qui en général viennent dans des bateaux
et qui
parlent à peine...
Je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle n'était pas formée. Cette personne n'était pas formée. Il n'y avait qu'une seule personne et qui recommençait une deuxième journée de travail.
Ouais.
Et ça, c'est la faute de qui ? C'est la faute du ministère de la Culture qui n'a pas donné les financements nécessaires pour... c'était de la responsabilité du ministère de la Culture. Et ça... c'est une responsabilité, personne ne la prend cette responsabilité.
C'est une question d'argent, en fait.
C'est une question d'argent, oui, bien sûr. Ce que j'explique, c'est que... Et puis, on ne sait pas pourquoi il y a beaucoup d'argent, je l'explique aussi, pour le Grand Palais. Il y avait un projet qui n'était vraiment pas bon. On fait des travaux du Grand Palais pour 450 millions d'euros, ce qui est énorme. Maintenant, le projet est un peu moins désastreux parce qu'il n'était pas bon pour le patrimoine. C'est un peu moins mauvais, mais on le fait quand même. À l'époque, il était très mauvais. On dépensait 450 millions d'euros pour le Grand Palais et on ne pouvait pas trouver 20 millions d'euros 300 millions d'euros, ouais, je crois, 300 millions d'euros pour Notre-Dame. C'était 20 millions, enfin on arrivait en 10 ans à 100 millions d'euros, et encore, si le clergé trouvait de l'argent. Donc l'État ne donnait pas l'argent nécessaire pour la restauration de Notre-Dame et pour sa mise en conformité. J'ai quelqu'un encore qui m'a dit qu'il avait visité la charpente de Notre-Dame 2 ans avant et qu'il avait qu'il voyait des fils électriques un peu partout. Je n'ai pas les photos, je ne peux pas le prouver, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'y avait pas la sécurité nécessaire et les alarmes nécessaires pour qu'on s'aperçoive très rapidement qu'il y a un feu. J'ai visité depuis, par exemple, la cathédrale, et j'en parle aussi, la cathédrale de Beauvais. Et là, on est en train d'installer des... Dès qu'il y a un instant, il y a de la chaleur, il y a de l'eau en gouttelettes, donc qui n'inonde pas, mais qui permet de saturer l'air en eau et qui permet d'éteindre l'incendie. Ça, c'est le genre de choses qui vont se multiplier, je l'espère, mais on en est très loin encore.
J'ai appris aussi dans le livre qu'un feu pouvait couver plusieurs jours avant de se déclencher vraiment, en fait.
Oui, tout à fait. Un feu peut couver dans le bois. Ça, c'est un pompier, tous les pompiers m'ont dit, et ça peut durer 1, 2, 3, même 10, 4 jours, c'est pas du tout impossible. Mmh. Et puis après, à un moment donné, hop, ça explose, si on veut. Mais le feu peut couver, oui, c'est ça.
D'accord, je comprends. Est-ce que tous les Parisiens vont mourir à cause du plomb qui a été dégagé ?
Évidemment non.
Voilà.
Ce que je dis là-dedans, c'est que le plomb, c'est dangereux, personne ne dirait le contraire. Ouais. Mais il y a une espèce de délire
une
autour du
plomb.
Une chape de plomb. Oui, on peut dire ça. En tout cas, le plomb, il faut savoir qu'il y en avait beaucoup plus dans l'environnement autrefois. Il y en avait dans les canalisations, dans les peintures, dans les voitures, dans l'essence. Il n'y a plus ça maintenant. Donc il y en a moins qu'avant. Malgré tout, ça reste dangereux. Mais on a traité ça comme si c'était de la radioactivité. Ça va beaucoup plus loin. Dans 5 ans, si on ne fait rien, ça c'est très grave. On ne pourra plus utiliser le plomb pour les vitraux. Alors là, je ne sais pas comment on restaurera les vitraux. Ça sera catastrophique. Donc ça, c'est un article que je prépare aussi dans la Tribune de l'Art, puisque j'ai effectivement aussi une autre casquette. Sur le plomb. Le plomb est dangereux, mais les professionnels savent exactement comment traiter le plomb. Et le fait d'avoir été bien au-delà de ce qu'il fallait faire, ça a coûté très cher. Alors Canard Enchaîné parle de 150 millions d'euros. Ça, j'ai pas pu. Je l'ai mis dans mon livre en citant le Canard Enchaîné, mais j'ai pas eu le temps de vérifier ça. Ça paraît beaucoup, mais pourquoi pas. Et en tout cas, ça a retardé beaucoup le chantier à un moment où c'était où il y avait des risques d'effondrement encore. Donc on délire totalement. Mais ça rejoint. Enfin, maintenant il y a le principe zéro risque zéro. Les faits n'ont plus d'importance. Donc le plomb, une fois qu'il est tombé au sol, il est solide. La fumée jaune, dont on nous disait que c'était... Pourquoi une fumée jaune ? Ça, c'est le plomb qui s'évapore. Mais ça ne dure pas. Et après, il tombe au sol, ces micro-gouttes de plomb qui se solidifient. Et une fois que le plomb est au sol, il est plus dangereux. Il faut vraiment... Pour les enfants, oui, parce qu'ils peuvent lécher leurs doigts, etc. Mais sinon, les professionnels savent faire. Donc le plomb, il y a eu un grand délire autour du plomb, je pense. C'est un des chapitres.
Effectivement. Quels sont les grands défis techniques, alors, pour la restauration ? Quels ont été les grands défis ?
J'ai l'impression que pour du technique, on est très bon. Hein, ouais. Ils sont très bons. On voit bien, d'ailleurs, ça va à une vitesse. Objectivement, j'ai fait une erreur, je dois le reconnaître, dans la tribune de l'art. Je ne pensais pas que d'ici fin 2024, on aurait terminé le toit et la flèche. Et je pense qu'on va y arriver. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça va très vite, là, pour le moment. Vous avez vu, on voit la charpente en bois. Truc, ouais. Peut-être que même la couverture, je ne sais pas si la couverture sera faite. Je pensais qu'on pourrait rentrer dans la cathédrale fin 2024, mais pas que le toit sera terminé. Alors, il ne sera peut-être pas terminé, mais il sera bien avancé. En tout cas, on a déjà la silhouette pratiquement de la flèche. Donc, défi technique, je pense qu'on sait faire, en fait. Ils savent faire et ils sont bons.
C'est rassurant. Ce n'est pas les mêmes boîtes qui étaient là avant.
Mais si, mais par exemple, mais les mêmes boîtes, si, ça peut être les mêmes boîtes, mais comme on ne sait pas la cause de l'incendie, et encore une fois, c'est ce que je dis aussi dans mon livre, il y a des mesures qu'on devrait prendre par la loi pour obliger certaines mesures de sécurité, des procédures de sécurité qui ne sont pas obligatoires. Donc il y a pu avoir un incendie qui s'est déclaré sans que personne soit responsable du départ de l'incendie, peut-être, je ne sais pas. Par exemple, si c'est un point chaud, les points chauds, on doit surveiller un point chaud. Un point chaud, c'est une soudure, c'est quelque chose qui fait des étincelles. Ouais. Je ne pense pas que ça soit forcément cela, mais si c'était ça, dans un monument, on doit surveiller, je crois, 2 heures, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme le feu peut couver plus longtemps, pas suffisant. Donc, par exemple, il n'y a pas d'obligation dans des chantiers de monuments historiques de faire des rondes régulières. S'il y avait des rondes régulières, on pourrait s'apercevoir plus facilement. Il y a plein de choses qui ne sont pas obligatoires et qui devraient l'être et qui peut-être auraient évité ce feu, même si un incendie est toujours possible avec les plus grandes. Le risque zéro n'existe pas, c'est ce que je voudrais comprendre aussi.
Ce qui est rassurant, c'est que ce n'est pas les mêmes qui s'occupent des centrales nucléaires. Les dons, les mécénats, rassurez-nous, vont bien uniquement à Notre-Dame.
Oui, ils vont à Notre-Dame. Il y a beaucoup d'argent. Oui. Alors c'est aussi, depuis que j'ai terminé le livre, je ne peux pas m'avancer trop sur le livre, mais je le dis un petit peu quand même, j'ai eu quelques confirmations, il faudrait aller enquêter encore plus, qu'on avait tellement d'argent, allons-y.
On peut faire 2 Notre-Dame.
Voilà, on a peut-être dépensé un peu trop d'argent. Est-ce qu'il y aura assez d'argent pour la fin, j'espère, parce qu'il y avait beaucoup d'argent.
Ah oui.
Beaucoup d'argent. Et on en a dépensé tellement qu'il faut espérer qu'on aura... suffisamment pour tout terminer. Je suis allé récemment à l'Aquila, j'ai fait une enquête sur l'Aquila, la reconstruction de l'Aquila après le tremblement de terre. Alors ils ont mis beaucoup de temps pour démarrer la reconstruction du dôme à l'Aquila, qui n'est pas beaucoup plus petit, il est moins haut, et qui a été quand même, une grande partie du transept s'est effondrée. Et quand j'ai dit le prix de la restauration aux architectes de l'Aquila, ils sont morts de rire, quoi. Ils étaient morts de rire. Donc on avait beaucoup d'argent, on va l'avoir dépensé, Tant mieux, après tout, au moins on aura une cathédrale qui sera restaurée.
Et on aura un respect de l'histoire ?
Oui, le respect de l'histoire est à peu près là, je pense. Oui. Non, pour ça, encore une fois...
Parce qu'on a eu un peu tout, on va faire une flèche incroyable en verre, on va mettre un truc panoramique, pourquoi pas un restaurant.
Alors ça, c'est effectivement, j'aborde ce sujet avec des architectes qui ont dit on va faire un toit en verre, comme ça on verra bien ce qui se passe dans Notre-Dame, on aura la lumière, sauf qu'il y a la voûte, ils ont complètement oublié qu'il y avait une voûte, ce qui est complètement... Ils ont raconté n'importe quoi. Bon, c'était des délires.
On
est plus à ça près, mais finalement, heureusement, grâce à la mobilisation de tous, je pense qu'il y a eu une grosse signature de plein de gens ont signé, des scientifiques, donc on a pu éviter ça. Maintenant, ce que je voudrais, c'est qu'aussi on termine les fouilles archéologiques pour retrouver toutes les sculptures à la croisée du transept. Ça, c'est pas gagné.
On a racheté des nacelles de plus de 35 mètres.
Alors oui, on est en train. Alors c'est ce que j'explique aussi dans le livre. À Paris, a priori, on en a une qui va arriver. Enfin, je sais plus où on en est d'ailleurs.
Volante, alors, parce que si elle met 3 heures pour faire 3,50 m.
Non, à Paris, mais une seule, c'est pas suffisant. Parce que si étant. Donc, on est encore très loin de ce qu'il faudrait. Et j'ai appris en faisant le bouquin que, pareil, en plus, ils ont pris des risques parce que le sol doit être suffisamment solide pour supporter ce. Et il faut donc. Ça veut dire qu'il faut, autour de toute la cathédrale ou de tous les grands monuments, vérifier à quel endroit on peut mettre ou renforcer pour si jamais il y a un incendie, mettre le bras élévateur nécessaire.
Ça promet. Bon, vous êtes confiant quand même.
Pour Notre-Dame, oui. Pour les autres monuments, je suis très inquiet. Il y a des monuments et des églises aussi grandes que Notre-Dame, qui ne sont pas des cathédrales, pour lesquelles il n'y a rien de fait. Des gens m'ont dit, ben là, je ne dirai pas le nom de l'édifice, parce qu'on pourrait savoir qui m'a dit ça, mais un édifice très grand, dans une ville de province, il n'y a absolument strictement rien.
Bon. Question du public, je pense qu'il peut y en avoir.
Est-ce qu'au point de vue archéologique, ça a fait avancer le...
Alors, je ne suis pas archéologue, mais oui, d'après ce que disent les archéologues, oui. Oui, bien sûr, ça a fait avancer les choses. Et puis surtout, ça a permis de découvrir des sculptures dont on n'imagine pas la beauté. Hein. J'ai eu la chance, le ministère de la Culture, qui des fois même pas trop, m'avait à l'époque boycotté et ne m'avait pas invité avec d'autres journalistes. Et j'ai pu, en demandant à l'établissement public de reconstruction, y aller une semaine plus tard. Et là, j'ai vu des choses que ne m'avaient pas vues mes confrères. J'ai pu prendre des photos. Une est dans le livre où on voit des sculptures d'une beauté exceptionnelle. Depuis, on ne peut pas les voir, c'est interdit, personne ne les voit. Mais je peux vous assurer que quand on va les dévoiler au public, ça sera extraordinaire, avec une polychromie fantastique, des chefs-d'œuvre absolus. Mais il y en a d'autres à trouver. Du XIIIe siècle, c'est le jubé du XIIIe siècle qui avait été démoli au milieu du XVIIIe siècle et qui avait été enterré, les sculptures étaient enterrées là. Et on sait qu'il y en a d'autres. Mais c'est pour ça que je vois absolument qu'on les fouille, parce que sinon on fouille le sol là, parce que sinon on ne le fera plus. Et on pourrait très bien ouvrir la cathédrale et faire les fouilles tout en maintenant... Oui. On pourrait même les voir, les gens pourraient voir les fouilles en train de se faire, on avance un peu l'autel et on fait les fouilles dans le chœur, ce serait possible.
Absolument. D'autres questions ? Bon, et Versailles peut être sauvé. Attendez.
Pourquoi ?
Alors pourquoi on met du plomb sur le toit ? Parce que c'est comme ça qu'on construit, que Notre-Dame était, et parce que ça a duré combien de siècles ? C'est pas dangereux le plomb, encore une fois, ça n'est pas dangereux le plomb.
Oui, mais quand ça fond.
Quand ça fonde souvent. Vous avez vu beaucoup de ça fond pas tous les jours. Et en plus, est-ce que vous avez eu connaissance de personnes malades à cause du plomb de Notre-Dame ?
Moi, non, jamais.
Non, je crois pas. Non.
Nous non plus.
Non, il n'y en a pas eu. Il y a eu. C'est le genre de choses qu'ils ont. Soit c'était très dangereux et ils ont les écoles à côté, ils les ont décontaminées plusieurs mois après. Donc soit c'était très dangereux, c'était trop tard. Soit c'était pas dangereux et c'est dangereux, mais encore une fois, il faut pas exagérer le danger. Je vous dis, avant, on avait dans l'essence, il y avait du plomb, dans les canalisations, il y avait du plomb. On absorbait du plomb tout le temps. Donc le plomb est un des meilleurs pour les monuments historiques. Le plomb est un matériau indispensable. Donc c'est pas choquant qu'on mette du plomb. Il y en a qui disent pourquoi est-ce qu'on met du bois ? Parce que voilà, on aurait aussi pu faire la charpente différemment.
Que vous êtes sur un prochain livre ?
Oui.
Ah, dites-nous tout.
Ah, écoutez,
sur qui
oui.
vous allez taper maintenant ?
Non, là, je vais faire un livre, alors je vais me faire traiter de tous les noms par certains. Mais et c'est un livre que j'ai prévu de faire avant que j'apprenne qu'il y ait 3-4 livres sur le sujet qui sont sortis récemment. C'est sur le. Il n'y aura pas ça dans le titre, mais c'est le wokisme.
Ah oui.
Dans l'histoire de l'art.
C'est-à-dire que
je voudrais parler des musées et de l'histoire de l'art qui malheureusement cède à cette. À ce wokisme qui, je vous rassure tout de suite, je déteste Trump. Trump est contre les wokistes, mais c'est pas parce que on est contre le wokisme qu'on est trumpiste, pas du tout. Non, je veux dire ça parce que si on vous dit ça, on vous dit ah oula, vous êtes un gros fasciste. Non, pas du tout. Simplement, je ne supporte pas ces gens qui luttent pour la soi-disant qui sont féministes alors qu'en fait c'est l'inverse qu'ils font, qui sont soi-disant homophobes alors que c'est l'inverse qu'ils font, qui sont soi-disant pour l'écologie alors que c'est l'inverse qu'ils font. En fait, ils ont que des bons combats. Qu'il dévoie. Et malheureusement, dans l'histoire de l'art, on trouve ça également.
Il y a 10 tomes en préparation.
Non,
rassurez-moi, on peut être anti-woke et pas forcément fasciste, on peut être normal.
Mais évidemment, c'est ce que je suis. Je pense pas être.
Ça me rassure.
Non, mais simplement, je dis ça parce que c'est insupportable. On voudrait dire dès qu'on dit qu'on est. Le wokisme n'existe pas. Si, le wokisme existe, on le voit tous les jours. Voilà. Et on peut être anti-woke et détester le fascisme et l'extrême droite.
Le seul woke sympa, c'est celui qui se mange, qui sert à manger. Exactement. C'est vietnamien. Didier Rickner, Notre-Dame, une affaire d'État. Merci, c'est génial.